Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Et comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, on vous le disait, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Ça fait déjà un moment que ça dure sur cette antenne de Radio Canu. Une heure d'actualité sociale et politique vue par les militantes et militants de l'Union Communiste Libertaire. On vous rappelle d'ailleurs au passage que vous pouvez rencontrer les militantes et militantes de l'UCL à la librairie La Plume Noire, 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse. On vous en parlera un peu plus tard, notamment vous annonçant certaines activités. Parce que comme traditionnellement, on commence cette émission par les annonces et les rendez-vous.
Bonsoir à toutes et à tous. On commence effectivement, comme tu le viens de dire, cette émission avec l'annonce d'un rassemblement demain à midi devant l'hôtel de ville. C'est un rassemblement afin de demander justice pour les rescapés de l'incendie qui a frappé le squat de Nuzières dans la nuit du 2 au 3 décembre. Cet incendie qui a fait une morte, Sonia, et a gravement blessé plusieurs autres personnes, dont deux qui sont encore à l'hôpital. Le mal logement tue, et même en cette période de trêve hivernale, il y a encore des centaines de personnes à Lyon qui sont sans solution. La nuit du 4 décembre, le lendemain du drame, 116 personnes ont dû dormir dans un gymnase. La préfecture les en a expulsées à grand renfort de CRS. La métropole a beau dire vouloir lutter contre l'habitat indigne, elle n'a toujours pas répondu aux sollicitations des collectifs. Les personnes concernées par ces mesures se sont rendues devant la préfecture pour exiger des solutions pérennes, mais n'ont été accueillies que par une nasse de policiers et une police aux frontières qui en a profité pour interpeller trois personnes. Pourtant, ce que les occupantes et les occupants de Denuzière demandent, c'est plutôt simple, hein, et largement à la portée de la métropole, un relogement pérenne pour toutes et tous dans l'agglomération pour mettre fin à des années d'épreuves, la réquisition de bâtiments vides et l'arrêt de la criminalisation des sans-papiers. Le rassemblement aura donc lieu demain à midi devant l'hôtel de ville pendant le conseil municipal pour demander un logement digne pour toutes et tous. Et sur une note un peu plus festive, demain, c'est aussi le lancement de l'Antifa Fest, le festival lyonnais annuel contre les discriminations et en soutien aux luttes antifascistes. Cette année, il fête ses 11 ans d'existence et il reste ô combien important face à la montée des actions et des agressions de l'extrême droite à Lyon. Le festival commence demain et se termine samedi. Au programme donc demain, jeudi, soirée punk avec Krav Boka, les Ramoneurs de Menhir et les Garçons Bouchers, des groupes qu'on entend parfois sur ces ondes. Ça commence à 19h à La Rayonne, 7 rue Henri Leguet à Villeurbanne. On y accède par le métro Vaux-en-Velin-la-Soie. Vendredi, ce sera une soirée hip-hop avec Okis, Davodka, La Scred Connection et Cynic, toujours à La Rayonne à partir de 19h. Et la soirée de clôture samedi au Grand Zero à Vaux-en-Velin avec Single Ladies, The Damn Givers, Yanka et Bull Brigade. Et comme chaque année, ce festival sera en mémoire de Clément Méric, de Pavlos Fissas et de toutes les victimes de la police, du fascisme et de la colonisation.
Et si vous voulez en savoir plus sur cette 11e édition de l'Antifa Fest, on peut que vous inciter à rester à l'antenne de Radio Canu après Idées Noires, puisque dans l'émission suivante, La Bande-son de nos révoltes, nous recevrons justement des membres de l'Antifa Fest qui viendront nous raconter l'histoire de 11 ans de festival antifasciste, de lutte et de fête, et qui viendront nous présenter en parole et en musique, puisqu'on retrouvera tous les groupes que tu viens de citer qui sont programmés pendant les 3 jours à venir, tout à l'heure, durant une heure, pour vous donner envie d'y aller. Donc restez à l'antenne après Idées Noires si vous voulez en savoir plus sur l'Antifa Fest. Tu nous parlais du rassemblement de demain à midi devant la mairie par rapport au mal logement et à l'incendie qui a dévasté un squat récemment à Lyon. Et bah demain, il y aura un autre rassemblement, juste un petit peu plus tôt, possibilité de faire les deux certainement, puisque demain, on en parlera un peu plus dans cette journée, c'est une journée de mobilisation intersyndicale sur la question des urgences sociales qui doivent enfin répondre, trouver des réponses concrètes. Et l'intersyndicale du Rhône, en l'occurrence l'unité départementale de la CGT, de la FSU, de Force Ouvrière, de Solidaires, de l'UNSA et de la CNT, appelle à un rassemblement demain à 11h30 devant la préfecture du Rhône, quai Augagneur, square Delestrin, pour faire entendre la voix du monde du travail et s'opposer à la fois au licenciement et aux politiques d'austérité. Donc c'est à 11h30 devant la préfecture, côté quai, du Rhône.
Et on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Donc tu viens de le dire, hein, demain deux rassemblements, samedi aussi deux rassemblements. Le premier c'est à 14h30 place Bellecour, c'est pour l'abrogation de la loi Darmanin contre une nouvelle loi Retailleau. Hasard du calendrier ou pas, samedi 14 décembre c'est justement la journée internationale des migrants et des manifestations auront lieu dans de nombreuses villes en France pour le respect des droits des étrangers. On l'a vu, hein, l'ancien gouvernement Macron avec Darmanin réduisait toujours plus les droits des personnes exilées. Le gouvernement Barnier a opéré dans ce sens en remettant sur la table la fin, par exemple, de l'aide médicalisée d'État, qui assurait pourtant des soins pour toutes et tous. Et on peut parier que le président est déjà en train de négocier avec la droite et l'extrême droite pour une politique qui stigmatise et met en danger les migrantes et les migrants au moment même où il réfléchit à son nouveau gouvernement. Cette manifestation, elle est à l'appel du collectif de soutien aux réfugiés et migrantes Lyon 69, dont l'UCL est signataire. Et les mots d'ordre, ce sont tout simplement un budget à la hauteur de l'accueil de toutes les personnes exilées, l'abrogation de la loi immigration de Darmanin, la régularisation immédiate de toutes et tous, le droit d'accès au travail et au logement pour toutes et tous, la liberté de circulation et d'installation, la fermeture des centres de rétention administrative et enfin le respect de la présomption de minorité et la mise à l'abri des personnes mineures, isolées ou non. Et l'autre rassemblement de samedi, c'est celui contre le massacre qui a lieu en Palestine. Il se tiendra à 15h, place des Terreaux, un massacre que l'ONU et bien d'autres n'hésitent plus à qualifier de génocide. Récemment, on a appris d'ailleurs que la Cour pénale internationale avait lancé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. À ce moment-là, le ministère des Affaires étrangères français a répondu que Netanyahou pourrait bénéficier de l'immunité, allant ainsi contre le droit international. Les morts s'accumulent, la population palestinienne continue à être tuée et déplacée, mais il est encore temps de demander l'arrêt des bombardements et les déplacements forcés de la population, l'arrêt de la livraison d'armes à Israël et la coopération entre l'Europe et Israël. Il est encore temps de dire stop à la violence et à l'annexion en Cisjordanie, stop à l'expansionnisme israélien, et il est encore temps de demander des sanctions contre l'État israélien et l'accès libre, évidemment, à l'aide humanitaire à Gaza. Rendez-vous donc samedi à 15h, place des Terreaux. Et enfin, samedi, un autre rendez-vous qui nous concerne un petit peu plus particulièrement à l'UCL, c'est un nouveau café libertaire organisé par notre groupe local de l'Union communiste libertaire. Ça aura lieu samedi à la Plume Noire, 8 rue Diderot dans les Pentes. L'UCL Lyon vous invite, comme un samedi par mois à peu près, à venir débattre autour d'une thématique. Et cette semaine, la thématique, c'est Karl Marx et les libertaires. Quels sont les enseignements à retenir chez Marx pour les libertaires? Que retenir des convergences et des divergences? Parce qu'on le sait, hein, les anarchistes et les communistes ne s'entendaient pas forcément bien, fut un temps. Opposé à Bakounine dans la première internationale, Marx a souvent été considéré comme un ennemi par certains anarchistes. Pourtant, il existe beaucoup de leçons à tirer de son héritage. C'est donc de ça qu'on va parler et qu'on vous invite à venir discuter avec nous. Ce sera ce samedi à 17h à La Plume Noire, 8 rue Diderot. C'est un événement gratuit, ouvert à toutes et à tous.
Eh ben, on va en reparler justement pour vous donner l'eau à la bouche là aussi, vous donner envie de venir débattre de Marx et des libertaires ou d'anarchisme et marxisme. On va en reparler sur cette antenne de Radio Canu, déjà dégrossir un peu le terrain, voir quelles sont les réflexions et remarques qu'on pourrait soumettre au débat. Mais juste avant, bah, la transition elle tombe bien, on va retrouver un groupe nordique, les Movements qui nous chantent eux justement sans aucune ambiguïté. We got Marx, on verra ensuite avec eux si on est d'accord ensuite.
Love of the world now, we've been good. We've been on strike now for a year without giving in. Government's falling, people are calling. It's up to you. When it happens to be true, just don't give in. So why don't you wake up and stay a little longer? We got love, we got hope, we got Marx. So why should we break up? Why should we break up? Feel a little stronger. Cause your love feels so good. We will make love the moment we wake up. Cause we're here and there's no need to disappear. Cause we're living. When we look back, the life that we had yesterday was a countless game we played without giving. So why don't you wake up and stay a little longer? We got love, we got hope, we got Marx. So why should we break up? Why should we break up? I feel a little stronger. Cause your love feels so good.
Marx de Movement.
Et Marx, on va la voir justement à La Plume Noire ce samedi à partir de 17h, samedi 14 décembre, à partir de 17h à La Plume Noire, 8 rue Diderot. On va parler des convergences et des divergences que Marx et les libertaires peuvent avoir, et justement quelques pistes de réflexion, David, que tu vas nous donner pour alimenter le débat sur ce qu'on peut retenir de Marx quand on est libertaire.
Oui, déjà, dans les convergences, je vois que tu as déjà prévu la barbe. C'est déjà un premier point. En effet...
Il faut qu'elle blanchisse un peu encore.
Ouais, t'as un peu de temps. Marx et les libertaires, une longue histoire faite de « je t'aime moi non plus », d'amour et de haine, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait aussi malheureusement couler du sang en Ukraine, du sang des marins de Kronstadt, du sang dans l'Espagne libertaire, et puis des sangs dans le caniveau de confrontations rugueuses entre services d'ordre dans de nombreuses manifestations, mai 68 ou dans les années 70. Deux frères ennemis du mouvement révolutionnaire qui sont pourtant issus d'une même matrice et qui sont en effet au 19e siècle nourris l'un de l'autre dans la construction du mouvement ouvrier. Et on peut se poser cette question, qu'est-ce qui rapproche en effet, c'est de ça dont on débattra samedi à la Plume Noire, qu'est-ce qui rapproche les libertaires et le marxisme et les marxistes, et qu'est-ce qui en crée une divergence. La première chose en effet qui nous embête toujours un petit peu, nous en tant qu'anarchistes, qui rappelons, avons pour devise ni Dieu ni Maître, ni César ni Tribun, comme le chante si bien la chanson que se sont appropriés les marxistes et qui pourtant avait été écrit par Eugène Potier, un militant libertaire, c'est que déjà c'est compliqué de se revendiquer marxiste, dans le sens où c'est se revendiquer comme faire d'un tout la pensée d'une seule personne, faire qu'on considérait qu'il y a un théoricien suprême et qu'il y a une pensée qui primerait sur tout le reste et qui est celle d'un seul théoricien, d'un seul militant, d'un seul penseur du mouvement social. Alors qu'au contraire, l'anarchisme se veut être une pensée dynamique qui s'est construite dans le temps, fait d'avancées, de reculs, d'expérimentations sociales, d'échecs, et qui est une pensée collective et accumulative qui s'est nourrie de nombreuses personnes, de Proudhon et de sa dénonciation de la propriété, de Bakounine, de l'individualisme de Marc Steiner, de l'expérience syndicaliste des Fernand Pelloutier, Émile Pouget et d'autres, et qui a été constamment en mouvement, qui s'est nourrie de l'action sociale au sein des syndicalismes, de l'impasse de la propagande par le fait, et dont les libertaires ont su tirer des enseignements, tirer des échecs pour en construire une grille d'analyse, une proposition d'action sociale et de projet de société future sans se référer à une seule personne et à un seul corpus théorique, contrairement au marxisme. Alors pour autant, c'est pas pour autant qu'on va rejeter le marxisme. Le marxisme, ça reste, et c'est aussi pour les libertaires, une grille d'analyse du système d'exploitation capitaliste. C'est peut-être en effet Marx et son autre copain barbu, Friedrich Engels, qui l'ont le mieux théorisé, le mieux incarné et le mieux présenté à travers leur étude sur à travers le grand livre de Karl Marx, Das Kapital, Le Capital, où il a décrit ce qui a été l'exploitation capitaliste et notamment le processus de la plus-value qui consiste à enrichir, à accumuler des capitaux, à enrichir une classe sociale qui est la bourgeoisie en tout simplement volant une part des richesses produites à ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, les prolétaires. Et cette analyse de l'exploitation capitaliste, de l'accumulation du système capitaliste et de la création d'une classe bourgeoise, on peut que la reprendre à notre compte, la partager, en être d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que anarchistes et marxistes partageaient dans la Première Internationale, à l'époque où même marxistes et bakouniniens, ou James Guillaume par exemple du côté des libertaires, s'opposaient face aux proudhoniens, pourtant considérés comme le père de l'anarchie, qui était resté sur des conceptions corporatistes et mutualistes, qui étaient dépassées et qui ne comprenaient pas les évolutions du capitalisme et de la révolution industrielle. Donc le marxisme, ça reste, et on partage en ce sens-là, ces grilles de lecture qu'il nous propose du système capitaliste, du système de la société inégalitaire qu'il produise et de l'accumulation des richesses. Par contre, là où ça va fondamentalement diverger entre libertaires et marxistes, c'est lorsqu'on va non plus être dans la critique du système d'exploitation capitaliste et de la domination capitaliste, mais lorsqu'on va parler du moteur de la transformation sociale et de qu'est-ce qu'est-ce qui va amener à la révolution sociale et quel type de révolution sociale on veut préconiser. Et là, il y a une rupture fondamentale entre libertaires, entre anarchistes et marxistes, une rupture fondamentale qui a abouti d'ailleurs à la division historique au sein de l'Association internationale des travailleurs, entre ceux qu'on a appelés les autoritaires, les marxistes, et ceux qu'on a appelés les anti-autoritaires, les libertaires, parce que il y a eu une divergence fondamentale autour de trois points. Le premier point, c'était celui de la conquête du pouvoir politique. Karl Marx et Engels, dans leur manifeste du Parti communiste, l'ont très bien dit. Ils considéraient que la fraction la plus consciente et la plus avancée de la classe ouvrière devait se constituer en parti politique qui devait jouer un rôle d'avant-garde et que cette avant-garde, ce parti politique, devait partir à la conquête du pouvoir politique, y compris par les moyens électoraux, et qu'une fois au pouvoir, une fois la conquête du pouvoir politique réalisée, ceci pourrait impulser la transformation sociale. À cette conquête du pouvoir politique par une avant-garde constituée en partie, les libertaires ont au contraire opposé l'action collective, la démocratie directe, l'auto-organisation et l'auto-gestion, en partant du principe que c'est dans les luttes aujourd'hui qu'on commence à développer des pratiques sociales, des relations sociales qui vont tisser la société de demain. Et c'est pas parce qu'on va s'emparer du pouvoir qu'on sera en capacité de transformer les rapports sociaux, quels qu'ils soient, aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine moral ou dans le domaine politique. Et que les luttes qu'on mène aujourd'hui doivent refléter la société qu'on veut de demain. Et si on veut une société anti-autoritaire, on doit avoir des luttes qui le sont aussi. Par ailleurs, cette conquête du pouvoir que prônent les marxistes, elle vise à la conquête de l'appareil d'État. Et là, c'est le second point qui va être fondamentalement une rupture avec ce que préconisent les anarchistes. C'est que c'est pas par la conquête de l'appareil d'État, c'est pas en prenant le contrôle et en renforçant un outil qu'on souhaite à terme détruire qu'on va pouvoir provoquer quelque chose d'émancipateur. Et que bien au contraire, il faut être capable de développer ce que nous on appelle aujourd'hui des contre-pouvoirs, ce que les militants libertaires ont appelé une contre-société, un mouvement social, des espaces d'auto-organisation et d'autonomie ouvrière pour pouvoir proposer un modèle de société qui fonctionne en dehors des rapports de domination étatique et une société qui ne fonctionne plus du haut vers le bas mais du bas vers le haut à partir de fédérations syndicales professionnelles ou de fédérations locales à travers par exemple l'exemple des bourses du travail. Et puis dernière chose qui va du coup profondément différencier les anarchistes des marxistes, c'est cette fameuse dictature du prolétariat qui est prônée par le marxisme, c'est-à-dire qu'une fois que la fraction la plus consciente du prolétariat constituée en parti politique va s'être emparée du pouvoir politique, s'être emparée du système étatique, et ben utiliser l'État pour, dans ce qu'ils appellent une phase de transition, instaurer une dictature de l'État aux mains du parti sur l'ensemble de la société pour instaurer par la force le communisme, la société sans classe ni État, chose que l'histoire nous a malheureusement montré que ça se terminait funestement tel qu'on a pu le connaître dans tous les pays du bloc soviétique et qu'on ne détruit jamais une institution autoritaire lorsqu'on passe par une phase où on la renforce et que bien au contraire, l'expérience des libertaires durant l'Espagne libertaire à travers des collectivités autogérées et fédérées entre elles était au contraire une expérience qui pouvait s'opposer à ce système étatique. Alors marxisme ou anarchisme, une même critique du système capitaliste inévitablement, mais deux voies d'émancipation sociale différentes, une qui vise à la conquête du pouvoir politique et à l'appareil d'État et à l'instauration d'une société qui nous semble autoritaire, une autre qui vise à l'émancipation pleine et entière des individus en tant que travailleurs, en tant qu'individus, mais aussi contre toute forme de morale et contre toute forme de domination, qu'elle soit économique, politique ou morale. Il n'y a pas de superstructure économique qui déterminerait le reste. C'est pas parce qu'on va abattre le capitalisme comme le préconisent les marxismes, que le système de domination masculine, par exemple, que le patriarcat va s'effondrer pour autant, ou que la domination politique s'effondrera. C'est contre toutes les formes de domination qu'on lutte, et que les formes de lutte qu'on développe aujourd'hui, elles doivent porter déjà des formes de relations sociales et des formes qui permettent d'entrevoir la société future. Voilà quelques quelques lignes qui ont marqué profondément cette opposition entre anarchistes et marxistes. Et puis on rappellera jamais assez que si les marxistes se sont toujours appuyés sur le dynamisme et l'élan révolutionnaire et la flamme libertaire, la flamme révolutionnaire des libertaires dans toutes les révolutions, de la révolution russe à la révolution espagnole, une fois au pouvoir ou aux portes des pouvoirs, du pouvoir, une des premières choses qu'ils ont fait, ça a été justement de se débarrasser des libertaires, y compris par l'assassinat, la violence ou les pelotons d'exécution, pour éviter qu'un modèle de société libertaire, un modèle de révolution véritablement émancipatrice puisse apparaître et puisse se développer. Alors marxisme ou anarchisme, eh ben, il faut savoir choisir son camp. Comme on le disait, on en débattra ce samedi à la Plume Noire. On reviendra sur ces convergences dans la critique du système capitaliste et on reviendra aussi sur ces différences fondamentales dans ce que nous proposons, nous, en termes de dynamique sociale et de politique d'émancipation. Voilà, on vous donne le rendez-vous, on vous le rappelle, c'est toutes ces questions qui seront en débat et dont on aura le plaisir d'échanger avec vous, de revenir, y compris à travers des exemples historiques, ce samedi à 17h à la librairie La Plume Noire, au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement. Et puis anarchisme ou marxisme, en tout cas, ce qui reste sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est des outils de critique, des outils d'organisation pour les luttes d'aujourd'hui. C'est pas simplement dans les luttes d'histoire, au contraire, c'est des choses qui sont bien opérantes. Et les luttes d'aujourd'hui, malheureusement, Rémi, ben, le contexte social nous rappelle qu'elles sont plus que nécessaire.
Oui, ben on va parler malheureusement de trois cas de plans de licenciement qui ont été pas mal médiatisés ces derniers temps. Le premier, c'est celui de Michelin, l'entreprise clermontoise qui est leader mondial du pneu, a réalisé des profits records l'année dernière et pourtant Michelin a annoncé environ 1300 emplois supprimés via la fermeture de deux usines à Vannes et à Cholet. En 2023, pourtant, le bénéfice opérationnel du groupe a atteint des records et sur 2 milliards de profits réalisés, la moitié a été redistribuée aux actionnaires. Une généreuse politique donc sur les dividendes que l'entreprise s'est engagée à faire perdurer jusqu'en 2030. Le souci pour les deux usines menacées de fermeture, ce serait d'après le groupe un manque de productivité. Mais comme le rappelle un économiste qui a été interviewé sur France Culture, il suffit d'affecter les commandes à d'autres usines, par exemple celles qui se trouvent dans des pays avec des salaires plus bas, pour que la comparaison de productivité apparaisse plus faible en France. L'autre exemple, c'est Auchan, l'entreprise de la richissime famille Muliez. Ce sont ici 2400 emplois dans une vingtaine de villes en France qui sont concernés. Pourtant, la famille Muliez possède, d'après le magazine Challenge, une fortune de 28 milliards d'euros. Durant la seule année 2023, la famille aurait même engrangé 8 milliards d'euros. Et entre 2021 et 2023, le groupe Elo, qui est la maison mère d'Auchan, a réussi à gratter les fonds de tiroir pour trouver quand même 1 milliard d'euros à donner aux actionnaires. Alors certes, il y a toujours le mythe du petit porteur et du salarié actionnaire qui place ses économies, sauf que sur le milliard distribué par le groupe, seuls 2% ont été reversés aux salariés actionnaires et 98% a été réparti au sein de la famille. Ici encore donc, un groupe qui licencie mais qui n'est pas vraiment dans la galère financière. Le troisième cas, c'est celui de Valeo, l'équipementier automobile met 1200 emplois sur la sellette. Pourtant, là aussi, pas de problème d'argent, puisque le groupe a annoncé en juillet dernier une amélioration de sa rentabilité de 4% et un bénéfice net en hausse qui atteint 141 millions d'euros. La cause des licenciements, c'est ici encore le profit, puisqu'une partie de la production, notamment en recherche et développement, serait en cours de délocalisation vers la Turquie. Mais ça, ce sont que quelques exemples qui font parler, parce qu'en tout, la CGT a recensé 180 plans de licenciement pour cette fin de l'année, pour cette fin d'année en France. 180 plans de licenciement qui vont détruire au total 47 000 emplois et qui pourraient même en menacer indirectement 200 000 autres chez les fournisseurs et les sous-traitants de ces groupes. Voilà, donc ça c'est pour les chiffres, mais ici on n'est pas sur France Info, on va pas se contenter de ça. Face à ce problème, l'UCL dénonce la raison de tous ces malheurs, et la raison c'est bien évidemment le capitalisme. Et à l'UCL, on développe des pistes à suivre pour que toutes ces luttes qui ont leurs propres problématiques puissent converger. Il faut s'emparer du problème pour ce qu'il est, un problème politique à l'échelle de toute la société. Il faut pouvoir contraindre l'État et les capitalistes et conquérir toujours plus de droits pour défendre les travailleurs et travailleuses collectivement, c'est-à-dire en leur rendant le pouvoir de décision et de gestion au sein des entreprises, mais aussi individuellement en assurant les droits de chacun et chacune. Et il faut aller au-delà de la lutte pour une branche ou un secteur. Tout cela doit se penser et se mettre en action de manière plus large, notamment avec les secteurs qui sont en crise permanente, comme par exemple l'hôpital, l'hôpital public et l'éducation. Et l'UCL a justement publié un tract le 6 décembre dernier. Vous pouvez le retrouver sur notre site unioncommunistelibertaire.org. Ce tract, il propose trois pistes à suivre pour combattre la classe bourgeoise qui veut contraindre toujours plus les travailleurs et les travailleuses. La première piste, c'est, je l'avais évoqué rapidement, c'est de rendre le pouvoir aux salariés. Et ça peut se faire de plusieurs façons. Déjà, par le blocage des dividendes versés aux actionnaires de toutes les entreprises qui licencient, il ne peut pas y avoir de l'argent pour les actionnaires s'il n'y en a plus pour les salariés. Ensuite, on peut redonner du pouvoir via le droit de veto des salariés sur les licenciements collectifs. Il faut pouvoir obtenir ce droit nouveau pour faire obstacle au pouvoir absolu du patronat et garantir, à minima, des reclassements pour toutes celles et ceux qui voient leurs emplois disparaître ou être menacés. La deuxième piste, c'est de partager le travail. Si les patrons considèrent qu'il y a trop d'employés, c'est tout simplement parce que la productivité augmente. Et plutôt que de s'en réjouir, la bourgeoisie voit des salariés en trop, des salariés inutiles dont on peut se passer et qu'elle veut licencier. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas réduire le temps de travail si chaque personne qui travaille est plus productive? Et pour partager le travail, il est aussi possible de baisser l'âge de départ à la retraite et sans baisse de pension, bien évidemment. Parce que quand on est plus productif, qu'on a fait gagner plus d'argent à son entreprise, c'est quand même la moindre des choses. Et puis, ça permettrait au passage aux jeunes de moins galérer pour entrer sur le marché du travail. Et enfin, la troisième piste, c'est celle de la protection sociale pour tout le monde. Pour tenir entre deux emplois, les salariés ont besoin d'une solide assurance chômage. Sauf que voilà, depuis 25 ans maintenant, le PS, les Républicains et la Macronie s'enchaînent et n'ont cessé d'assécher ce droit à l'assurance chômage. Il faut pouvoir inverser la tendance en réaugmentant les cotisations patronales, c'est-à-dire en prélevant sur le capital, car, faut-il le rappeler, le capital, ce sont les salariés qui l'ont produit, et puis assurer la subsistance de chacun, c'est essentiel, ça passe par la redistribution des richesses. Toutes ces mesures qu'on évoque ici, elles peuvent limiter la casse, mais clairement, elles ne suffisent pas. Elles peuvent quand même servir de point d'appui pour remettre en cause plus globalement le capitalisme et les désastres sociaux et environnementaux qui vont avec. Le but, c'est de préparer une autre société, une société débarrassée de la dictature du marché et du profit, en se reposant sur le socialisme et l'autogestion.
Et puis tu parlais des licenciements dans le secteur du privé, mais c'est pas que dans le secteur du privé. Dans la fonction publique aussi, on assiste à des licenciements, des choses assez folles qui se passent du côté du rectorat de Lyon, par exemple, qui reflète de ce qui se passe dans l'éducation nationale, où a été remonté par de nombreux personnels de l'éducation nationale auprès de plusieurs syndicats le non-renouvellement de contractuels en CDD, dont le contrat se termine en décembre. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont pas titulaires d'un concours de la fonction publique, mais qui sont embauchés parce qu'on le sait, l'éducation nationale n'arrive pas par le côté peu attractif des salaires et du métier à répondre à tous les postes qu'ils ouvrent au concours. Et donc, pour qu'il y ait des enseignants devant tous les élèves, ils vont recruter des gens sur des contrats en CDD, des contrats de droit privé, des gens qui sont contractuels dans la fonction publique et qui vont voir leur contrat s'arrêter en décembre, qui termine pas l'année scolaire, alors qu'on leur avait pour beaucoup laissé entendre qu'ils étaient devant leur classe jusqu'à la fin de l'année scolaire, pour une explication très simple, c'est que le rectorat n'a plus le budget pour les prolonger une fois de plus, que la politique de purge budgétaire qui a été imposée par les gouvernements successifs, et ben en fait elle en arrive à virer des enseignants qui vont se retrouver eux aussi au chômage, et une fois de plus cette politique elle aboutit tout simplement à la dégradation du service public de l'éducation. Hein, ces personnels qui occupaient le plus souvent des postes de remplaçants ou de complément de service, ben en fait apparaissent comme des variables d'ajustement budgétaire. Et quand on sait que de nombreux remplaçants ne sont pas pourvus faute de personnel suffisant dans les collèges et les lycées, on peut vraiment se poser les questions de cette logique, que cette décision, elle va encore plus amplifier le nombre d'élèves qui seront privés d'heures de cours et auxquels ils ont droit. On se rend bien compte que en fait, aujourd'hui, les gouvernements Attal et Barnier ont recruté des enseignants uniquement pour mettre en place leur fameux groupe de niveau inégalitaire et sélectif qu'ils ont imposé aux forceps dans le cadre de la politique dite du choc des savoirs et qui participe à trier les élèves et à désorganiser les collèges. Et en attendant, les remplacements de courte durée sont une rustine démagogique qui nous est servie, parce qu'on voit qu'il y a un véritable manque de personnel et que l'austérité budgétaire ne permet même pas de pérenniser les postes des enseignants en contractuels qui sont en place, et que ceux-ci vont se retrouver dans une précarité encore plus accrue, et une précarité qui touche tout simplement les services publics dans leur ensemble. Et on voit que le système d'éducation tend à se dégrader en même temps que par rapport à tout ce que tu citais sur les licenciements, des personnes vont se retrouver dans l'éducation nationale licenciées en cette fin d'année. Joyeux Noël, on pourrait dire. Bravo le rectorat pour ce cadeau de Noël qui est fait à ces personnes, en CDD dans l'éducation nationale. C'est pour ça que demain, on sera dans le froid, contre vent et marée, devant la préfecture du Rhône à 11h30, à l'appel de l'intersyndicale du Rhône, dans le cadre de cette journée d'action qui s'accompagne de préavis de grève interprofessionnelle qui couvre toutes les catégories de personnel qui souhaitent s'y joindre, parce que les urgences sociales doivent enfin trouver des réponses concrètes. On sait qu'après la censure par l'Assemblée nationale du gouvernement Barnier, les attentes du monde du travail, les attentes des travailleuses et des travailleurs sont toujours là, elles sont toujours d'actualité, et qu'il y a urgence à ce que la parole du monde du travail soit entendue et puis soit mieux prise en compte, qu'il est impératif qu'il y ait des réponses concrètes qui soient apportées au monde du travail et qu'on en arrête avec les logiques de démolition sociale. On en parle régulièrement, puis tu viens de l'évoquer, toutes ces préoccupations, elles portent aussi bien au niveau de la question des salaires face à un coût de la vie qui est de plus en plus important et où la vie chère rend de plus en plus difficile et de plus en plus précaire le quotidien de nombreuses personnes. Ça porte sur la question justement du nombre de postes et de l'arrêt des suppressions de postes dans la fonction publique et la dégradation des services publics. Ça porte sur, bien sûr, la défense du modèle social et en premier lieu l'abrogation de la loi inique et brutale de réforme des retraites qui a été passée par Macron. Et puis ça porte aussi sur d'autres questions comme celle de l'égalité hommes-femmes, par exemple, dans le monde du travail. Et c'est toutes ces questions qu'il est temps de mettre un peu plus en avant et d'exiger des réponses concrètes et des choses qui aillent dans le sens du monde du travail. Alors on sait que la semaine dernière il y avait une grève dans la fonction publique, jeudi 5 décembre dernier, qui a été extrêmement bien suivie dans de nombreux secteurs. C'était par exemple plus de 6000 personnes qui ont battu le pavé, qui sont descendues dans la rue à Lyon, que les mesures contre lesquelles les agents de la fonction publique se sont mobilisés le jeudi dernier, pour l'instant ont été suspendus avec la censure du gouvernement, mais que ces mesures qui étaient prévues par ce gouvernement peuvent très bien réapparaître dans un futur projet de budget, et que il faut enfoncer le clou pour faire entendre le fait que pour nous elles sont inacceptables et qu'on veut pas les voir revenir, qu'il s'agisse des 3 jours de carence dans la fonction publique, du plafonnement des jours d'arrêt à 90% du salaire, des suppressions de postes, etc., etc. Et puis, comme tu l'as dit, dans le monde du privé, dans tous les secteurs d'activité, chaque jour, c'est des annonces de suppression d'emplois qui se succèdent face auxquelles il est indispensable de construire une riposte collective. Et ça passe par des journées de mobilisation. D'où cette journée de demain qui est appelée par l'intersyndicale du Rhône. Journée de demain qui est appelée par l'intersyndicale du Rhône, qui s'inscrit dans trois jours de mobilisation sociale qui ont commencé hier, aujourd'hui et demain, qui ont été ouvertes par les cheminots, notamment contre la privatisation du fret, qui ont vu d'autres secteurs se mobiliser. On pourrait parler de la santé, les pompiers qui sont toujours en grève aussi, par exemple. Demain, l'idée, c'est que tout ça converge dans une journée un peu collective. Et c'est pour ça que l'intersyndicale du Rhône appelle donc demain 12 décembre, à un rassemblement devant la préfecture à 11h30, quai aux Gagneurs, square des Lestrins, et une délégation intersyndicale sera reçue pour faire entendre la voix du monde du travail auprès du représentant de l'État pour faire entendre que la situation exige d'autres choix que ceux qui étaient proposés par le gouvernement Barnier. Et puis pour nous, ce qui est important, c'est de commencer à construire un rapport de force, à tisser des liens, des solidarités pour renforcer le mouvement social. Et des journées comme celle-ci, tout simplement, elles y contribuent à leur petite échelle et elles ne sont pas à négliger. Voilà pour ce qui était de cette page sociale, de cette importante page sociale. On va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Idées Noires, cette émission de l'Union Communiste Libertaire. On va aller retrouver notre camarade basque Fermin Muguruza. Fermin Muguruza en concert, en live, qui rendait hommage à la lutte menée par le peuple kurde dans ce morceau sur la lutte du Kurdistan, qui nous amènera ensuite à aborder une petite page internationale par rapport à tout ce qui se passe en Syrie. Ce morceau de Fermin Muguruza qu'on écoute, c'est le fameux Nevroz.
We'll be right back.
retour sur Idée Noire, sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios. Tu l'annonçais avant le morceau, tu vas nous parler de ce qui se passe en Syrie. Et bah, justement, la chanson s'est terminée sur le nom d'un joli endroit qui s'appelle le Kurdistan.
Et oui, à qui on ne peut que apporter notre soutien, parce que c'est vrai que si peut-être un moment d'espoir pour le peuple syrien est en train d'apparaître, la gauche kurde, elle subit des revers, et que, comme tu le dis, un joli endroit où peut-être se passent les dynamiques les plus émancipatrices au Moyen-Orient risque d'être malmené selon comment à la fois au niveau mondial vont se repositionner les impérialistes dans ce qui se passe en Syrie, et comment malheureusement le fascisme branc des islamistes va porter atteinte aux conquêtes sociales et notamment aux conquêtes des femmes du côté du Kurdistan. Alors Bachar al-Assad et son régime sont tombés. C'est bien évidemment un moment d'espoir, on le disait, pour le peuple syrien, parce que cet effondrement brutal du régime ouvre de grands espoirs, mais une victoire armée ne fait jamais une révolution, et l'avenir démocratique et social de la Syrie en fait dépend de l'orientation que vont adopter les vainqueurs du jour, du rapport de force avec les autres forces armées, des ingérences impérialistes en cours de repositionnement, mais surtout, et c'est peut-être ça qui est crucial, d'un retour de l'expression et de l'intervention populaire qui avait marqué les deux premières années, par exemple, de la révolution syrienne précédente, qui avait été écrasée ensuite. En tout cas, l'offensive est claire, qui a été lancée le 27 novembre, et l'opposition armée a pris Damas sans réelle résistance dans la nuit du 6 au 7 décembre, et privé du soutien de ses parrains russes et iraniens, Bachar al-Assad, héritier d'une dictature qui, quand même, rappelons-le, est en place depuis plus de 50 ans, a fui le pays pour la Russie. Qu'il est quand même responsable de près d'un demi-million de morts et de mortes en 15 ans, et de la fuite de 6 à 7 millions de réfugiés, le tout étant bien sûr le résultat d'une politique d'assassinat et de bombardement, y compris chimique, sur sa propre population. On sait que les prisons du régime, connues pour être parmi les pires du monde par l'emploi systématique de la torture ou du viol dans les prisons de femmes, ont enfin été ouvertes. On a tous vu des images de l'ignoble prison de Sadnaya, qui donne une idée de la barbarie qu'avait pu atteindre le régime de Bachar al-Assad, où les prisonnières et prisonniers, dont certains étaient coupés de tout contact avec l'extérieur depuis des décennies, ont enfin pu revoir le jour. Et puis le peuple syrien sur place, comme en l'exil, a partout laissé exploser sa joie et son soulagement après 13 années d'une guerre civile épouvantable. Et ces années meurtrières, elles ont été marquées par de multiples ingérences étrangères qui trouvent donc un dénouement aujourd'hui aussi rapide qu'inattendu, on pourrait dire. La fin du régime d'Assad est en fait un signal fort qui est envoyé au peuple en lutte du monde entier, hein, puisque ça permet de se rendre compte qu'un autocrate peut se maintenir au pouvoir, semer la mort, mais que la résistance, elle peut finir aussi par porter ses fruits, qu'il faut à présent espérer le redémarrage d'un processus révolutionnaire dans lequel le peuple syrien soit pleinement acteur, ouvrant la possibilité d'un avenir démocratique, et non pas tomber dans l'impasse et l'illusion et de solutions qui vont à l'encontre de l'émancipation du peuple syrien, et dans notamment l'impasse islamiste qui serait funeste pour les libertés individuelles et notamment celles des femmes. Tout le monde observe bien sûr donc du coup avec appréhension l'évolution qui est revendiquée par justement Hayat Tahrir al-Sham, HTC, hein, qui est issu du djihadisme et qui se revendique aujourd'hui d'un islamisme dit modéré, tolérant envers les différents groupes ethno-confessionnels qui composent la Syrie. Mais le fait que son offensive éclair n'ait pas entraîné de massacres, de pillages, de représailles sanglantes, sont en effet un signe positif. Mais néanmoins, on sait que toute idéologie religieuse extrémiste de plus est a tendance à vouloir s'imposer, y compris par la force et l'intolérance, et contre les libertés individuelles, et dont les femmes sont les premières victimes. Et donc, il reste à voir comment la politique de ce groupe évoluera dans les actes, sous la pression croisée notamment des différents impérialismes et en relation avec les autres forces armées syriennes, et notamment celles qui ne sont pas islamistes, comme les forces démocratiques syriennes, les FDS qui sont arabo-kurdes, et les forces reconstituées dans la région de Deraa au sud. Mais on sait que tout ça doit aussi se recomposer, et surtout se recomposer avec la société civile, c'est-à-dire avec l'opposition non armée, celle qui manifestait déjà il y a plus de 10 ans, en 2011-2012, et qui avait initié des comités populaires, mais a été décimée par une répression sanglante, puis réduite au silence et à l'exil. Et à n'en pas douter, cette opposition civile, elle va forcément à un moment donné exprimer de nouveau ses exigences démocratiques, et c'est tant mieux. Alors tout ça, ça va se faire aussi dans un contexte, on le disait, de repositionnement des impérialismes, parce que des ingérences impérialismes, il y en a, et chacun va tenter de profiter des événements. La Russie, on l'a vu, elle a fait une croix sur son allié Bachar. Son objectif, du coup, à présent, c'est de conserver ses bases militaires sur la côte syrienne. Et la question reste de savoir si le nouveau pouvoir en place en Syrie y consentira ou pas, et quelles relations il va entretenir avec la Russie de Poutine. L'autre acteur important de la région, et qui est au centre de l'ensemble des tensions aujourd'hui, c'est bien évidemment Israël qui a envahi la zone démilitarisée autour du plateau du Golan, annexé de facto, mais son objectif principal est de tarir le flot en fait d'armement iranien vers le Hezbollah libanais, qui transite par la Syrie, et que Bachar finalement arrangeait bien Israël, puisqu'il était inoffensif, et Poutine lui autorisait Tel Aviv à bombarder en Syrie les convois iraniens. Et donc il est probable qu'Israël continuera à bombarder la Syrie où et quand elle le veut, avec l'approbation de Moscou, mais aussi de Washington. Autre acteur dans la région, c'est bien sûr la Turquie. La Turquie qui a elle aussi un objectif prioritaire, qui est de détruire la gauche kurde, en neutralisant notamment l'administration autonome de Syrie du Nord-Est, l'ANES, et puis bien sûr ses soutiens de l'armée nationale syrienne, qui occupe toujours le canton d'Afrin et de l'Arjone dans le nord du pays, et notamment au Rojava, dont on disait au début, auquel on peut apporter que notre solidarité aujourd'hui et notre soutien pour les dynamiques sociales et émancipatrices qui s'y déroulent et qui se retrouvent dans une situation confrontée entre plusieurs étaux. Et puis enfin, on va citer l'Iran, de même que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, qui sont pour le moment, eux, mis de côté et hors jeu. Et pour terminer, il y a bien sûr les grands Yankees, les États-Unis, qui ont également une présence militaire dans cette région du monde, une force armée à leurs mains dans le désert syrien pour combattre l'État islamique de Daesh, et qui, contrairement à ce qu'on dit, est loin d'être mort et enterré, et qui campe pour l'instant sur des postures d'observateur de la situation à Damas. Alors, l'espoir qu'il faut avoir, c'est celui d'une alternative à la dictature, mais aussi à la guerre, parce que on sait que si les forces progressistes, notamment du FDS, ont salué sans ambiguïté la chute de Assad, elles peuvent vouloir défendre l'autonomie démocratique du Rojava, qui a été jusqu'à présent durement acquise, et elles peuvent aussi proposer son extension. Le modèle confédéral démocratique qui est expérimenté aujourd'hui au Rojava peut inspirer la Syrie de demain, et c'est un modèle qui est d'ailleurs fortement inspiré du fédéralisme libertaire et qui ne peut que nous réjouir, et qui peut apparaître comme une alternative au modèle dictatorial, policier, sous lequel a vécu la Syrie pendant 50 ans. En réalité, rien n'est joué pour l'instant quant au modèle politique et économique d'un pays aujourd'hui à un tournant historique. Le pire serait bien sûr la perpétuation de la guerre civile, et on sait que en tout cas, depuis 2011, les communistes libertaires dont on fait partie ont suivi attentivement les événements, d'abord en s'inscrivant dans une solidarité concrète avec la révolution syrienne, puis en soutenant hier et encore aujourd'hui et demain sans certainement le Rojava et la gauche kurde. Et de côté de notre organisation, du côté de l'UCL, de l'Union communiste libertaire, on continuera à travailler, à échanger et soutenir l'ensemble des forces politiques syriennes portant en elles la volonté de construire un avenir démocratique, indépendant, égalitaire et émancipateur, C'est comme ça que les peuples vaincront, que les tyrans tomberont et qu'une Syrie libre pourra se constituer et que le Kurdistan pourra continuer à être un modèle de territoire émancipateur au Moyen-Orient face aux États autoritaires, au modèle islamiste obscurantiste. Voilà, on ne manquera pas certainement de rediscuter de tout ça sur cette antenne de Radio Canu dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire.
Et merci David pour cette page internationale. Et puis, puisqu'il nous reste quelques minutes et qu'on parlait un peu plus tôt dans cette émission d'autogestion et de lutte contre les licenciements chez Michelin, je voulais revenir un petit peu plus près de nous et partager avec vous une petite histoire qui rassemble ouvriers et paysans, comme dit la chanson. Une petite histoire qui réchauffe à la fois le cœur et l'estomac. Hein. On peut lire ça sur Reporter, sur le site Reporter. C'est un petit reportage qui parle de cantines solidaires qui sont venues soutenir les grévistes justement d'une usine Michelin. Parce que depuis le 5 novembre dernier, date de l'annonce du plan de licenciement, il y a une grève qui a été votée et les salariés ont bloqué l'usine de Cholet, de Michelin de Cholet, dont je vous parlais tout à l'heure. Et si le blocage a cessé le 29 novembre, le piquet de grève, lui, il a continué. Et pour lutter contre le froid, il y a plusieurs militantes et militants qui sont venus préparer des repas chauds. Et parmi elles et eux, on retrouve l'association Ravitaillement Alimentaire Autonome Réseau d'Entraide, le RAR, et la cantine militante qui porte le joli nom de Plat de Résistance. Et la nourriture, certes, ça remplit l'estomac, mais ça ne fait pas que ça. Quand il y a de la bouffe, au lieu d'être 30, on est 150, comme le témoigne un ouvrier en grève de cette usine Michelin, et un autre qui renchérit. Ces repas, c'est important, ça prouve qu'il y a de la solidarité. Et de la solidarité, effectivement, il y en a, puisque en plus du RAR et de l'association Plat de Résistance, on retrouve d'autres militantes et militants impliqués. Les légumes pour les repas, par exemple, ils ont été offerts par la Confédération Paysanne. Il y a aussi eu un marché gratuit organisé par le réseau Ravitaillement des Luttes du Pays Rennais, le R2R. R2R qu'on salue d'ailleurs, hein, parce que si je dis pas de bêtises, ce sont elles et eux qui sont venus nous prêter main forte pendant les journées d'été de l'UCL il y a un peu plus d'un an. Voilà, parenthèse fermée. Un marché gratuit donc qui a vu le jour aussi grâce à l'aide des greniers des soulèvements de la terre. Voilà, donc toutes ces petites mains qui sont venues soutenir les grévistes, qui ont fait un boulot à la fois utile et important. Important parce que cet élan de solidarité, il est certes humain, mais il revêt aussi forcément une dimension politique de la solidarité. Pour la Confédération Paysanne, les paysans et les ouvriers, ils ont des adversaires en commun. Cet adversaire, c'est le libre-échange et la concurrence internationale, celle-là même qui appauvrit les paysans et qui est responsable, on l'a vu tout à l'heure, entre autres, de la vague de licenciements qu'on connaît en ce moment en France. Alors d'accord, la discussion, elle n'est pas toujours très simple entre les ouvriers et les militantes et militants de ces associations. Les ouvriers ont par exemple beaucoup voté RN aux dernières élections européennes, mais cette proximité, ce petit exemple qui est en apparence anodin de solidarité entre les luttes ouvrières et paysannes, c'est peut-être, quitte à être un peu naïf, un bon point de départ pour la convergence dont on parlait un peu plus tôt. Et puis c'est l'occasion aussi de remercier toutes les personnes qui s'engagent en soutenant matériellement et moralement, comme ils l'ont fait ces militantes et militants, les grévistes et les gens qui luttent. C'est aussi grâce à elles et eux que les grévistes tiennent le coup et arrivent à établir un rapport de force avec des patrons qui, eux, ne manquent jamais de pain sur leur table ni de beurre dans leurs épinards.
Voilà, c'est avec ces paroles qu'on va terminer cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h sur ce 102.2 de Radio Canu. On se retrouve la semaine prochaine avec l'autre équipe. Et puis on vous rappelle, ce samedi 14 décembre, 17h, à la librairie La Plume Noire, Café Libertaire, autour du débat Marx et les libertaires, l'occasion aussi de rencontrer les militants et militantes de l'UCL. Et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour Idées Noires. Et moi, je vous retrouve juste après notre générique, on vous rappelle, pour la bande son de nos révoltes, une émission